Chers amis, nous ouvrons nos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains, à l'église de Jésus-Christ à Rome, pour lire et relire le passage qui est notre passage clé. Nous avons un chant qui revient de rencontre en rencontre, mais aussi un passage qui reste la toile de fond de notre réflexion sur ce sujet, ce thème fondamental du cœur, offrez vos cœurs, l'éducation de la pensée. Je lis donc dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, essentiellement les deux premiers versets. Je vous exhorte donc, ou je vous encourage donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou spirituel, conforme à ce que la raison demande. Et ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous coulez pas dans le moule de Monsieur Tout-le-Monde. Mais soyez transformés, métamorphosés en profondeur par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, que vous appréciez, même que vous mettiez à l'épreuve la volonté de Dieu, laquelle est bonne, agréable et parfaite. Second texte, dans la lettre de Paul à l'église de Jésus-Christ à Colosse, Colossiens chapitre 3, au début, là aussi, de la partie pratique de cette lettre, après tout un exposé doctrinal très dense, d'une grande richesse, très actuel, nous aurions pu l'examiner à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui. Donc Paul aborde ce chapitre 3, pratique, et j'en lis les cinq premiers versets. Si donc, vous avez à nouveau un donc, ceux qui étaient là hier soir se souviennent hein, du donc, tellement important dans la vie chrétienne. Si donc, ou puisque donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous, ou affectionnez-vous, ou encore pensez aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, c'est un terme générique, on parle beaucoup du mot générique en matière de médicaments, il y a des génériques dans la Bible aussi, ce sont des termes clés qui englobent des familles de mots, qui vont tous dans la même direction. Et ici, nous avons un générique concernant toutes les déviations de la sexualité. Qu'elle soit hors des liens du mariage, qu'elle soit dans les liens du mariage. Il y a là un terme général qui d'ailleurs a donné en français un mot que nous entendons souvent, hélas, à l'heure actuelle. Le mot « pornographie » vient de là, c'est une francisation du terme grec. Donc faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est ainsi que le pasteur de cette église, hier soir, introduisait notre série de réflexions. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur, ce quartier général de chacune de nos individualités, le tréfonds de la personne, le centre de la vie. Là où se trouvent tous les leviers de commande de la vie. Dans le domaine de l'intelligence, du raisonnement, tous les aspects de la volonté, le discernement, la conscience, le monde de la pensée qui apparaît d'ailleurs dans tous ces domaines, et bien sûr l'affectivité, mais qui n'est pas la dominante dans les quelques 1000 passages, au moins, des Écritures qui utilisent aussi bien en hébreu qu'en grec le terme rendu par cœur dans notre langue française. Garde ton cœur plus que toute autre chose. La transcription d'Alfred Kuhn qui a voulu mettre en valeur toutes les facettes dans l'usage des mots du texte original, donne ceci: par-dessus tout, veille à ce que tu penses, le cœur, siège de la pensée, et à ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections modèlent toute ta vie. Et nous avons vu, n'est-ce pas, que l'homme est telles sont les arrière-pensées de son âme. Ce qu'il pense est la dominante de ce qu'il pense, se traduit quotidiennement sans même qu'il s'en rende compte dans son comportement. Place des sentinelles, place des gardes, veille pour empêcher l'infiltration ennemie. Sans doute, si Dieu nous y conduit, nous pencherons-nous sur cet aspect défensif au niveau de la pensée demain matin. Et il y a tout un faisceau de versets dans les Écritures qui vont dans cette direction. La nécessité de nous armer, la nécessité de nous équiper, de travailler, comme le disait Blaise Pascal, travailler donc à bien penser, c'est le principe de la morale. Attention donc à ne pas laisser à nos pensées la bride sur le cou. Et nous évoquions effectivement, notre frère qui présidait tout à l'heure l'a rappelé, attention au développement de mauvaises habitudes de pensée. Ces habitudes de pensée qui finissent par modeler notre comportement et nos actions. Et nous avons tous, vous et moi, des habitudes de pensée. Et des habitudes de pensée qui, pour certaines d'entre elles, sont bonnes, mais pour d'autres sont mauvaises. Et qui existaient déjà alors que Christ ne nous avait pas sauvés et introduits dans la famille du Père, n'est-ce pas ? Et trop souvent, dans notre vie avec Christ, nous continuons à vivre avec nos habitudes de pensée. Que nous traînons comme un boulet. Et j'aimerais ici vous donner une petite illustration quant au résultat des pensées développées, cultivées, les réactions qu'elles engendrent à longue durée. Trois garçons, âgés de 18, 13 et 9 ans, ont un père qui, progressivement hélas, s'adonne de plus en plus à la boisson, devient alcoolique. Et quand le père rentre à la maison, enivré, agressif, tous les soirs, il se retrouve en face de son fils aîné qui est assez grand pour lui tenir tête et qui lui fait passer ce message: si tu me cherches, tu vas le regretter. Le deuxième fils, lui, d'un autre tempérament, ne peut pas résister à son père physiquement, et donc il développe un autre système de pensée. Il devient le conciliateur classique, il essaie d'apaiser son papa. Et quand papa rentre ivre à la maison, il lui dit: « Salut papa, comment vas-tu? Est-ce que je peux t'apporter quelque chose? Veux-tu que j'appelle quelqu'un ?» Quant au troisième, le plus jeune, il a tout simplement peur. Et quand son père rentre à la maison, son système de pensée qui se met en place, qui se développe, le fait se courir pour se cacher dans le placard ou sous le lit. Il fuit son père pour éviter tout conflit. Et c'est ainsi que, peu à peu, ces trois garçons développent des réactions défensives face au comportement hostile de leur père alcoolique. Et c'est ainsi aussi que, peu à peu, ils vont former des habitudes de comportement. Nous les retrouvons 10 ans plus tard. Que font ces jeunes gens, devenus adultes, quand ils rencontrent une personne au comportement hostile? Comment vont-ils réagir? Eh bien, ils vont réagir en fonction de l'ornière de pensée qui s'est développée peu à peu en chacun d'eux au fil des années de difficultés, de confrontations ou de fuites ou de conciliations dans leur relation avec leur père. L'aîné adulte, lorsqu'il rencontrera de l'hostilité, immédiatement va se battre. Le second va systématiquement chercher à être le conciliateur, à apaiser. Et le troisième, bien sûr, va fuir. Ils ont développé des habitudes de pensée et de réaction qui sont fortement ancrées et qui exercent une emprise sur eux. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, nous l'avons vu hier, dit dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, que nous avons des problèmes de forteresse de pensée. Avec des armes spirituelles, face à certains problèmes dans l'église de Corinthe, Paul indique qu'il s'attaque à ces forteresses de pensée, de raisonnement qui doivent être renversées, car car elle s'élève contre la connaissance de Dieu. Elle refuse de se soumettre à Jésus-Christ. Et il utilise un langage militaire. Nous faisons littéralement prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Alors nous aurions pu, ce soir, prendre toute une série d'exemples dans les Écritures pour voir dans nos vies de tous les jours un certain nombre de domaines qui nous sont communs à tous, dans lesquels nous avons tendance à développer des ornières de pensée. Nous aurions pu évoquer les préjugés, toutes les idées préconçues que nous transportons avec nous, les jugements hâtifs. Nous aurions pu évoquer tout le problème qui tourne autour de la rancune, de la haine, toutes ces questions relationnelles où si vite nous entrons dans des ornières de pensée où nous alimentons la haine, où nous alimentons la rancune. Si bien qu'avec le temps, se produit dans nos vies un endurcissement. Les ornières se creusent de plus en plus profondément et il devient de plus en plus difficile de régler nos conflits avec les autres. D'où, dans les Écritures, un enseignement extrêmement fort sur la nécessité d'une promptitude, d'une rapidité, ce petit terme « vite » qui revient bien des fois, déjà dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament, pour nous inviter, pour solliciter notre rapidité dans le règlement des conflits qui nous opposent les uns aux autres, de manière à éviter que des ornières se creusent de plus en plus dans notre pensée et que des forteresses s'érigent qui obligent notre Dieu, par amour pour nous, à utiliser le bazooka et d'autres méthodes particulièrement douloureuses pour faire sauter ces forteresses. Mais il fallait choisir, je l'ai dit hier soir, c'était là tout mon embarras une fois de plus, dans le cadre de ce week-end, dans la jungle épaisse d'une matière particulièrement généreuse sur la pensée, sur un thème fondamental et sur lequel il y a si peu de littérature évangélique, et c'est bien dommage, il fallait choisir. Donc nous avons laissé cet aspect de côté pour nous concentrer sur un aspect fondamental de la lutte, mais non pas dans un sens de défensive, mais dans un sens d'offensive. Ce soir, nous allons être préoccupés par une offensive personnelle en vue de penser comme Dieu veut que nous pensions. Donne à tes pensées une nouvelle orientation. Nous avons lu cette transcription de Romains 12, verset 2 dans le texte d'Alfred Kuhn, n'est-ce pas ? Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Et le thème de notre soirée, c'est cela. Donnez à nos pensées une nouvelle orientation. Et pour cela, nous avons donc ce texte de Colossiens, au chapitre 3, que nous reprenons. Colossiens chapitre 3, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Puis au verset 2, Paul enfonce le clou avec ce verset et cette expression diversement traduite. Dans ma version, j'ai « attachez-vous aux choses d'en haut », mais ça me gêne un peu, c'est juste. Mais il y a une finesse du texte original qui n'apparaît pas. Ceux et celles qui étaient là, qui est là hier soir, vous vous souvenez que nous avons remarqué dans Romains 12, 2 qu'il y a un petit mot grec très important, de 4 lettres, qu'on peut rendre par raisonnement, mentalité, jugement, intelligence. C'est le petit mot nous, n'est-ce pas ? Et nous avons remarqué que c'est un terme clé des Écritures. À partir de ce terme et de sa racine, foisonne toute une série de mots de la famille, et nous en avons un ici, attachez-vous, phroneïté, dans le phroneïté, vous avez le nous, il est là, juste au milieu. C'est-à-dire que c'est un terme qui appartient à la famille de la pensée. Si bien que dans certaines versions, et peut-être que quelqu'un d'entre vous a cette version sous les yeux, vous avez simplement cette traduction, c'est celle qui a été retenue par la nouvelle version second révisée qui vient de sortir, et je m'en réjouis, pensez à ce qui est en haut. Pensez à ce qui est en haut. Et non à ce qui est en bas. C'est tout simple. D'autres versions diront, préoccupez-vous. La préoccupation, c'est aussi quelque chose qui se passe là dans le cerveau. Hein. Nous avons dit offrez vos cœurs, c'est-à-dire offrez vos têtes, offrez vos cerveaux. Et la préoccupation, c'est là. Pensez à ce qui est en haut. Et ce sera vraiment notre mot d'ordre du week-end aussi, de cette soirée. Entrer en matière pour un programme d'église, puisque c'est là aussi ce temps de retraite biblique de rentrée. Pensez à ce qui est en haut. Préoccupez-vous, c'est-à-dire que ce ne soit pas une pensée occasionnelle. Le temps utilisé ici, qui est un temps en conjugaison qui n'existe pas dans la langue française, est un temps qui s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire, pensez continuellement à ce qui est en haut. C'est pas une préoccupation de temps à autre comme ça, hein. Non. Continuellement, mobilisez votre esprit. Utilisez l'ensemble de votre activité mentale, votre esprit, votre intelligence, votre affectivité, toutes vos pensées. Et là encore, la transcription de Paroles vivantes est intéressante. L'auteur a tenu à décortiquer le sens du terme que toute votre pensée et toute votre affection soit orientée vers ces biens célestes. Que toute pensée et toute votre affection soit orientée vers ces biens célestes. Donc, redisons-le, pas d'oisiveté mentale, non aux rêveries dangereuses. Il est question dans le livre de Jude, au verset 8, puisqu'il n'y a qu'un chapitre, des rêveries dangereuses d'hommes qui changent la grâce de Dieu en dérègleurs, des rêveurs. Dieu ne veut pas de passivité dans nos vies. La passivité est le terrain le plus favorable à toute action de la puissance des ténèbres. Et il existe une expression de christianisme, même évangélique aujourd'hui, terriblement centrée sur la passivité, mais qui fait du disciple de Jésus-Christ rien d'autre qu'un médium. Faire le vide, c'est laisser accès à toutes les attaques de la puissance des ténèbres. Non, nous le remarquons, n'est-ce pas ? Mobilisez votre esprit, votre intelligence, que toute votre pensée, toute votre affection soit orientée vers les biens célestes. Et là, nous privilégions, je l'ai déjà dit tout à l'heure, une stratégie offensive, positive, laissant pour demain matin la stratégie de défense. Comment faire alors pour avoir une stratégie positive, offensive ? Je pense à ce cultivateur dans le midi de la France, dont le sommeil était empoisonné par les moustiques. Et vous savez combien c'est désagréable, en particulier quand il s'agit de moustiques femelles, n'y voyez absolument aucun sous-entendu, mais c'est ainsi. Ce sont eux qui posent problème. Et malgré ces précautions, il y avait toujours quelques moustiques qui réussissaient à pénétrer dans sa chambre et qui l'agaçaient. Et je trouve que il savait que ces moustiques provenaient de l'eau de ces grands réservoirs ouverts dans sa propriété, avec ses grands jardins, ses surfaces cultivées de cultivateurs, tout simplement parce qu'il cultivait des œillets. Il y avait un peu du pagnol chez lui. Et il se disait, je ne peux pas faire n'importe comment, parce que si je mets certains produits, ça va poser d'énormes problèmes ensuite pour mes cultures. Alors comment est-ce que je pourrais faire pour ne pas gâter l'eau d'arrosage ? Et c'est ainsi que un jour, il s'est rendu en ville avec un grand bocal. Et quand il est rentré chez lui, il a versé le contenu de son bocal dans ses grands bacs, dans ses grands réservoirs. Et bientôt, effectivement, il n'y eut plus de moustiques. L'eau était même devenue plus riche en éléments nutritifs, tout simplement parce qu'il avait mis des poissons rouges. Stratégie offensive. Et vous savez que c'est ainsi dans nos jardins. Notre désespoir est grand parce qu'il y a des mauvaises herbes et c'est fou ce que ça pousse. Hein. Alors une des solutions, c'est aussi parfois simplement de savoir occuper le terrain avec d'autres choses pour qu'elles aient le moins de liberté possible pour se développer. Et nous pourrions ainsi donner quantité d'autres exemples dans ce domaine. Penser à ce qui est en haut, se préoccuper des choses d'en haut. Se préoccuper des choses d'en haut, par opposition bien sûr aux choses d'en bas, dont il est question dans Philippiens au chapitre 3. Et nous l'avons dit hier soir, l'épître aux Philippiens est d'une manière toute particulière centrée sur tout ce qui tourne autour de la pensée. Et dans Philippiens 3, Versets 17 et suivants, il est écrit « Soyez tous mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent, même verbe que Colossiens chapitre 3 verset 2, n'est-ce pas? Le même verbe, préoccupez-vous, pensez à ce qui est en haut, le même verbe ici, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, ils n'ont à cœur que les choses de la terre, écrira une version, ils n'ont en tête que les choses de la terre. Toutes leurs pensées, toutes leurs aspirations sont orientées vers les choses d'ici-bas. Je pense à ce moussaillon qui était sur un bateau pour la première fois. Il venait de commencer sa carrière sur la mer et un jour le capitaine lui a dit « Voilà, tu vas monter là dans le plus... grand mât, tout en haut. Mais fais attention, quand tu vas monter, tu vas être tenté de regarder en bas. Alors surtout, souviens-toi, regarde toujours en haut. » Et le moussaillon, après avoir dit au capitaine qu'il allait l'écouter, n'est-ce pas, monte, toujours plus haut, arrive là-haut, tout en haut. Et il hume, il respire, il regarde, il dévore des yeux, il est fier, il est heureux. Il est en train de réaliser un des rêves de sa vie. Quand bien entendu, le moment vient où c'est plus fort que lui, il regarde en bas. Et alors, l'inévitable se produit. Voilà que très rapidement, tout commence à tourner, il est mal à l'aise, il n'arrive pas à détacher son regard comme hypnotisé, attiré vers le vide. Mais le capitaine a de l'expérience, il connaît les dangers. Et il a surveillé son moussaillon hein, comme une mère poule. Pendant qu'il grimpait, il a scruté de près, il se rend compte de ce qui se passe dans la vie de son moussaillon et subitement, il le regarde et de loin, il hurle « Regarde en haut !» Il ne pense qu'aux choses de la terre. « Regarde en haut !» Il ne pense qu'aux choses de la terre. Je pense à ces Juifs, qui étaient peut-être 2 à 3 millions, et qui avaient connu une délivrance extraordinaire de l'Égypte, après plus de 4 siècles. De ces jours, dont toute une partie extrêmement difficile, en terre égyptienne, sous la férule de Pharaon. Enfin, les voilà libres. Après un temps de rude esclavage, les voilà libres. Et pourtant, dans le livre des Nombres, au chapitre 11 et dans les versets 4 à 6, il nous est dit que le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. C'est intéressant. Tout d'abord, il y avait un ramassis de gens au milieu d'eux. C'est-à-dire, il y avait des gens qui s'étaient infiltrés dans le peuple d'Israël. Tout simplement parce qu'ils étaient opportunistes. Ils avaient assisté à la déroute de toutes les divinités égyptiennes, frappées les unes après les autres. Et ils s'étaient dit, manifestement, le Dieu de ce peuple juif est un grand Dieu. Nous avons intérêt à partir avec ces Juifs. Comme ça, ce Dieu-là va nous faire du bien. Et puis dans le désert... Vous le savez, les conditions de vie du peuple ont été parfois extrêmement difficiles parce que Dieu les a mises à l'épreuve. Ils ont dû apprendre un tas de choses. Et là, dans ces situations de tension, ce ramassis d'opportunistes a commencé à se poser des questions, à se demander s'il avait bien fait de choisir d'emboîter le pas à Israël. Parce que ce Dieu d'Israël était finalement quand même assez décevant. Et c'est ainsi qu'ils ont... commencer à râler, je dirais comme de bons français, saisi de convoitise. C'est intéressant. Dans les 10 commandements, le 10e, c'est tu ne convoiteras point. Et c'est quelque chose qui me frappe énormément. Pourquoi ce commandement est-il à la 10e place? Parce que très souvent dans les Écritures, dans un texte, il y a aussi une stratégie dans la position des idées, du message, des mots, des locutions par lesquelles Dieu parle. Et je comprends pourquoi ce 10e commandement est à la dernière place. Parce que c'est un commandement qui est centré sur le domaine de la pensée. Et qu'en fait, chacun des 10 commandements, nous les violons d'abord dans le domaine de la pensée. Et il est là en queue de liste, non pas parce qu'il est le moins important, mais parce que tout comme le premier commandement, il est d'une extrême importance. Pour nous rappeler que la convoitise est quelque chose qui se passe là, dans notre tête, dans notre tête. Et c'est dans notre tête d'abord que nous violons chacun des 10 commandements. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons, ah, c'est encore la pensée, hein. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Nous nous souvenons. Et ce qui est tragique, c'est que s'ils avaient raison de se souvenir, ils se souvenaient de travers. Curieusement, dans leur situation, ils avaient gommé tout ce dont ils auraient dû se souvenir. Au lieu d'orienter leurs pensées vers la gloire de la délivrance connue, vers toutes les manifestations de la puissance de Dieu, de la générosité de Dieu en leur faveur, au lieu de penser en arrière vers la délivrance miraculeuse de la mer Rouge, bien non, avec un esprit tordu, ils se souvenaient en réalité de ce qu'ils auraient dû oublier. Et c'est parfois comme ça dans notre vie. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Et c'est intéressant parce que, en relation avec l'attitude du peuple d'Israël dans le désert, dans Actes 7, 39, Étienne, le premier martyr, dira, parlant d'Israël, « Ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. » Ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Et une autre version traduira, ils retournèrent par la pensée en Égypte. Et c'est à cause de cela qu'à un moment donné, ils se sont tournés vers Aaron pour lui dire, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Donc en pensant à leur passé égyptien, ils pensaient à l'envers, à ce qu'ils auraient dû oublier. Et ils oubliaient ce à quoi il aurait fallu continuellement penser. Et il arrive que ce soit comme ça dans nos vies, chers amis. Vous avez rencontré Christ, Christ vous a rencontré. Combien de fois, à quelque part, il y a dans nos cœurs des regrets dans certains domaines, pour des oignons, des poireaux. Nous ne pensons qu'aux choses de la terre. Au lieu de nous souvenir d'où nous avons été tirés, du déploiement de la générosité, de l'amour de Dieu en notre faveur, pour que nous soyons ce que Dieu a fait de nous depuis. Un jeune homme trouva un jour un billet de 10 francs, c'était l'époque des francs, sur un trottoir. Et depuis ce jour-là, il n'a jamais plus levé les yeux en marchant. Toujours rivé au sol, pour y faire quelques nouvelles trouvailles, il accumula au cours des années 29 516 boutons, plus de 50 000 épingles et d'innombrables petites pièces d'argent, plus un dos courbé, une tendance innée à l'accaparement. Il perdit de vue la gloire du soleil levant, le scintillement des étoiles, le sourire des amis rencontrés en chemin, la splendeur de la printanière, l'azur du ciel et toute la joie de vivre. Et c'est parfois comme ça que notre pensée creuse des ornières. On s'est laissé prendre à un petit jeu d'argent en apparence inoffensif, alors la pub nous en offre des pelletées tous les jours dans nos boîtes aux lettres. Et puis ça y est, on a mis le doigt dedans. Et ensuite, peu à peu, toute notre préoccupation, toute notre pensée va, même en tant que disciple de Jésus-Christ, tourner autour de cette possibilité d'un gain. Parce que nous sommes bombardés de plus en plus par une publicité de plus en plus agressive et tous azimuts et par tous les moyens qui nous poussent à ne penser qu'aux choses de la terre et à avoir comme Dieu notre ventre. Alors l'apôtre Paul nous le dit, il nous faut respirer le ciel et son atmosphère à fond, de manière à pouvoir gagner les batailles dans le monde. L'atmosphère limpide du ciel veut balayer l'atmosphère polluée de la terre. Il nous faut travailler en permanence avec de bonnes bouteilles d'oxygène pour supporter notre travail dans les profondeurs de ce monde. Et il y a trop dans l'Église de Jésus-Christ, dans nos pays industrialisés, il y a trop de croyants qui suffoquent, complètement intoxiqués par les vapeurs de ce monde. Pourquoi ? Parce que dans leur vie, c'est impératif. Penser continuellement à ce qui est en haut est devenu chose aléatoire, secondaire. On y pense de temps à autre quand on veut bien prendre le temps. Et mes amis, nous sommes dans un monde qui, sur ce plan, est absolument sans pitié, plus que jamais, mes bien-aimés. Si nous ne mettons pas toutes les armes de notre côté, nous serons emportés par cette lame de fond qui se développe de plus en plus. Lame de fond de matérialisme, etc., n'est-ce pas ? Pensez à ce qui est en haut. Combien, ô combien, cela est important. J'ai sous les yeux cette illustration donnée par un commentateur de Colossiens 3. Je vous la livre telle quelle. Un avion qui survolait le désert d'Arabie se posa près d'une oasis pour se ravitailler en carburant. Après le décollage, l'avion ne tarda pas à survoler une région montagneuse et le pilote entendit un grincement derrière lui. On eût dit qu'un animal était entré dans le fuselage de l'avion. Le pilote s'en inquiéta vivement car il savait que si un animal se mettait à ronger les fils électriques, il pourrait y avoir de graves conséquences. Cependant, il n'y avait nulle part où atterrir dans cette région accidentée. Le pilote eut alors une idée. Il prit de la vitesse, fit monter l'avion de plus en plus haut dans le ciel jusqu'à ce que les grincements et les grattements cessent. Plus tard, lorsqu'il posa l'avion dans un aéroport, il découvrit un énorme rat du désert qui s'était glissé dans l'avion sans que personne ne s'en soit rendu compte quand on fit le plein à l'oasis. Mais l'indésirable passager clandestin était mort. Accoutumé comme il l'était au désert, il n'avait pas survécu en haute altitude. Pensez à ce qui est en haut. Cela veut dire contempler le Père et le Fils. Contemplez le Père et le Fils. Pensez à ce qui est en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Jésus l'a dit d'ailleurs, « Moi, je suis d'en haut. » Et puis il y a ce beau texte de Jacques 1, 17, « Tout don excellent, tout cadeau parfait viennent d'en haut. » Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Pensez à tous ces cadeaux de Dieu, à toutes ces bénédictions de Dieu, dans une France si morose, qui ne pense qu'à critiquer, qu'à s'opposer. Pensez à ce qui est en haut. Je pense à la prière des 100 bénédictions journalières qu'un Israélite fidèle faisait, ne se contentant pas seulement de bénir Dieu 10 minutes chaque matin. L'Israélite pieux, en s'éveillant, disait d'une voix encore mal éclaircie, « Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui ouvre les yeux des aveugles. » Quand il se levait, tout en s'étirant, le petit garçon, qu'il était, ajouté d'une voix déjà plus ferme, « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers qui délie ceux qui sont liés. » À l'instant peu apprécié de la toilette, il prononçait comme ses petits camarades, « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné de nous laver les mains. » Puis quand il s'habillait, il disait « Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui revêt ceux qui sont nus. » Quand il mettait ses sandales, s'il en avait, il disait « Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a pourvu à tous nos besoins. » De même, en nouant sa ceinture ou en se couvrant la tête, il disait « Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a saint Israël de force et qui a couronné Israël de gloire. » Et devant le pain, Jésus, enfant, prononçait cette bénédiction rituelle « Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui tire le pain de la terre. » Et quand le repas était terminé, il ajoutait « Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nourrit toutes tes créatures. » Apprendre à continuellement penser à ce qui est en haut. Au lieu de nous joindre du matin au soir, aux jérémiades, à la morosité de notre temps. C'est, j'en suis persuadé, ce qui va faire réfléchir ceux qui nous entourent. De rencontrer des personnes qui n'ont pas la même mentalité, qui voient avec un regard tout autre
qui ne sont pas préoccupés par les oignons, les os et tout le reste, n'est-ce pas? Voilà ce qui va les faire réfléchir. D'où vient-il ce regard si positif chez toi? D'où vient-il? Comment se fait-il que tu ne te joignes pas en permanence à nos récriminations, à nos revendications du matin au soir? On nous donnerait la lune que nous ne serions pas satisfaits. Alors là, j'aimerais que nous allions vers un des livres les plus douloureux de la Bible, le livre des Lamentations de Jérémie. Livre des Lamentations de Jérémie. Un livre qui, en fait, est un poème funèbre. Nous avons dans le Cantique des Cantiques un merveilleux chant d'amour qui célèbre une monogamie heureuse. Et puis ici, nous avons un poème funèbre. Les poèmes funèbres de cette époque commençaient tous par cette formule « Et quoi ?» ou « Quoi donc ?» cette exclamation. Et c'est aussi d'ailleurs encore actuellement le livre qui est lu dans les synagogues le jour du deuil en souvenir de la destruction du temple de Jérusalem. Quoi donc ? Livre bouleversant. Mais livre curieux. Livre curieux surtout lorsqu'on le compare à celui qui le précède, le livre du prophète Jérémie. Parce que dans le livre du prophète Jérémie, j'ai relevé quelque 221 mentions de Babylone. Le terme Babylone revient 173 fois, avec en particulier un terme assez particulier qui fait partie d'une sorte de jeu de mots. Et 48 fois, il est question des Chaldéens ou de la Chaldée. Dans les chapitres 50 à 52 de Jérémie, c'est-à-dire les trois derniers chapitres, Babylone est mentionnée au moins 75 fois, plus 17 fois la Chaldée. Or, le livre des Lamentations de Jérémie, curieusement, alors qu'il fait allusion de manière très directe à la catastrophe nationale la plus odieuse qu'ait connue le peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire la destruction de Jérusalem et en particulier la destruction de son temple, eh bien ce livre des Lamentations de Jérémie ne mentionne pas une seule fois Babylone. Alors que c'est Babylone qui, ayant investi, assiégé Jérusalem, a finalement créé un véritable chaos dans une barbarie absolument incroyable, une cruauté qui faisait d'ailleurs la terrible réputation de cet empire babylonien. Alors regardez par exemple au chapitre 2. Imaginez le prophète Jérémie qui a derrière lui une bonne quarantaine d'années de service pour Dieu, extrêmement difficile. Il a connu toutes sortes de souffrances, il a échappé je ne sais combien de fois à la mort, in extremis. Homme totalement incompris, homme qui a tout sacrifié sur l'autel de l'obéissance à la volonté de son Dieu. Homme qui a refusé de se marier, refusé d'avoir des enfants pour obéir à l'Éternel, être disponible, être un signe qui interroge, qui interpelle le peuple d'Israël. Et voyez cet homme qui a maintenant une bonne soixantaine d'années et qui erre dans les ruines fumantes et ensanglantées de Jérusalem. Qui voit des choses absolument affreuses, telles qu'on peut les voir dans les guerres les plus odieuses. De véritables rivières de sang qui coulent dans les rues. Des femmes enceintes éventrées, des vieillards recroquevillés dans la mort. Bref, les choses les plus horribles qui soient. Et Jérémie pleure. Et Jérémie vomit sa bile. Jérémie s'arrache les cheveux de désespoir. Et il parle, chapitre 2, verset 1er. Et quoi ? Le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a dans sa fureur renversé les forteresses de la fille de Juda. Il les a fait rouler à terre. Il a profané le royaume et ses chefs. Il a dans son ardente colère abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévorent de tous côtés. Il a tendu son arc comme un ennemi. Sa droite s'est dressée comme celle d'un assaillant. Il a fait périr tout ce qui plaisait au regard. Il a répandu sa fureur comme un feu sur la tente de la fille de Sion. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël, il a dévoré tous ses palais, il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Juda de plaintes et de gémissements. Il a forcé sa clôture comme celle d'un jardin. Il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat. Et dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le sacrificateur. Le Seigneur a dédaigné son autel, repoussé son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Les cris ont retenti dans la maison de l'Éternel comme en un jour de fête. L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau, il n'a pas tiré sa main sans les avoir exterminés. Il a plongé dans le deuil remparts et murailles qui n'offrent plus ensemble qu'une triste ruine. Ses portes sont enfoncées dans la terre, il en a détruit, rompu les barres, etc. Pourquoi est-ce que nous avons lu cela? Est-ce que vous avez vu une mention de Babylone? Pas une seule. Mais j'ai compté, dans les 9 premiers versets que nous venons de lire, 30 mentions de l'Éternel. C'est-à-dire que tout en traversant une souffrance extrêmement intense, Jérémie, qui est un amoureux de Dieu, s'oblige à avoir le regard dans la bonne direction. Derrière la main des Babyloniens, Jérémie voit la main de l'Éternel. Et alors, au chapitre suivant, c'est terrifiant. Dans les 18 premiers versets, 24 fois, il est question du Dieu qui juge. Chapitre 3, verset 1er, « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, même dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. » Il parle de sa propre expérience. Lui, le prophète fidèle à l'Éternel pendant plus de 40 ans. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier, implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc. Il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. J'ai dit ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Vous entendez, c'est Jérémie. Quand nous osons parfois en dire le dixième dans l'église, il y a quelqu'un qui se lève avec une kalachnikov pour nous tirer dessus en nous disant tu n'es pas spirituel. C'est pour ça que j'aime les Écritures. Voilà un homme de Dieu qui a livré à l'humanité tout entière et pour tous les temps à venir le bouillonnement de son cœur. Mais heureusement, il ne s'est pas arrêté là. Sinon, la Bible serait un livre qui conduirait tout le monde à la dépression. Alors que c'est le livre de Dieu qui a encouragé des millions et des millions de personnes tout au long de l'histoire de l'Église, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une suite. Regardez le verset 19. « Quand je pense... » Nous sommes dans notre thème, chers amis. « Quand je pense à ma détresse, à ma misère... » à l'absinthe et au poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et puis, subitement, il y a une sorte de résurrection. Quelque chose de stupéfiant qui se produit. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Offrez vos cœurs. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donne de l'espérance. Mais écoutez-le, Jérémie. Au milieu des ruines de Jérusalem, dans ces ruines fumantes dont nous avons parlé, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Voilà un homme qui, à un moment donné, dit ça suffit. Pense à ce qui est en haut. Pense à ce qui est en haut. Discipline tes pensées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Vous entendez? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et le terme bonté, du moins le terme hébreu rendu par bonté dans ce texte, c'est peut-être le plus beau terme de l'Ancien Testament. C'est un terme intraduisible en français par un seul mot équivalent. Ce qui fait que d'une version à l'autre, et parfois même d'un passage à l'autre dans nos Bibles, on lui donne un sens légèrement différent. C'est la bienveillance de Dieu. C'est donc la bonté de Dieu. C'est l'amour de Dieu, c'est la tendresse de Dieu, c'est la loyauté de Dieu. Tout le problème d'un amour fidèle, d'un amour constant, d'un amour solide, le révolutionnaire en matière linguistique et de traduction biblique, Chouraki, très problématique dans certains domaines, mais très heureux dans d'autres, il faut retenir ce qui est bon, traduit ce mot par une expression remarquable, le chérissement de Dieu. Le chérissement de Dieu. Un Dieu qui nous chérit. Toute la tendresse de Dieu, la tendresse de Dieu, le chérissement de Dieu, et c'est au pluriel ici. Il y a là un superlatif, c'est au pluriel. Les bontés, les chérissements de l'Éternel ne sont pas épuisés. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Mais regardez-le, mes amis, Jérémie. Il faut incarner notre Bible. Il faut vraiment essayer de faire vivre les personnages. Les placer dans leur cadre. Vous le voyez au milieu de ce champ de ruines, notre ami Jérémie. Avec ce lourd passé si difficile, et qui subitement regarde vers le ciel, dont le visage s'illumine, dont les yeux se mettent à briller, lui qui vomissait sa bile l'instant d'auparavant, et qui dit non, oh que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Ça, c'est la discipline des pensées. Voilà la discipline des pensées. J'ai sélectionné le passage, ce même passage dans la version du rabbinat français. Donc, une version française de Tzadok Khan, un rabbin, qui rend ce passage ainsi. « Rappelle-toi ma misère et mon abandon. Je ne connais que poison et absinthe. En évoquant ces souvenirs, mon âme s'affaisse en moi. Mais voici la pensée qui s'éveille en moi. Et c'est pourquoi j'espère. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas taries et que sa miséricorde n'est pas épuisée. » Vous croyez que Jérémie était sorti de la cuisse de Jupiter? Que c'était un personnage hors norme? Une sorte de personnage de l'élite du peuple d'Israël? Non. Il était comme vous et moi. Et tout au long de l'histoire de l'Église, jusqu'à ce jour, des hommes et des femmes ont appris à pratiquer la discipline des pensées. À regarder en haut. Je viens de relire 5 livres successivement de la plume de Corrie ten Boom ou de ses proches. Corrie ten Boom, cette femme de Dieu hollandaise, à la tête d'un réseau de résistance en Hollande pendant la dernière guerre, famille évangélique, ouvrant la Bible jour après jour, et à cause de leur amour pour le Seigneur, cachant des Juifs dans leur maison d'Harlem. Et voilà donc qu'un jour, trahi par un voisin, la famille est disloquée. Et Corrie et sa sœur Betsy se retrouvent finalement dans le terrible camp de concentration de Ravensbrück, qui vit disparaître quelque 96 000 femmes. Betsy, l'aînée de Corrie de quelques années, très fragile dans sa santé. Corrie va la voir s'éteindre progressivement, maltraitée. Mais Betsy est une femme qui a appris à tourner ses pensées vers le ciel. Et j'ai sélectionné 2 passages dans le témoignage de Corrie qui va, grâce à une erreur entre guillemets administrative, un mauvais numéro, échapper d'extrême justesse à la mort, puisqu'elle sera libérée quelques jours avant la fin de 1944 et quelques jours après la mort de sa sœur, Betsy à ses côtés, parce que Dieu avait un ministère pour elle. Elle va ensuite, pendant des années jusqu'à 85 ou 86 ans, elle va parcourir le monde pour apporter un message extraordinaire de pardon, tout d'abord à l'Allemagne et puis ensuite véritablement au monde entier. Dans la semaine qui suivra la sortie de prison, de ce camp de concentration de Corrie, toutes les femmes de son âge seront passées au four crématoire. Et Corrie, de dire ceci, j'ai souvent entendu des gens dire, comme Dieu est bon, nous avons prié qu'il ne pleuve pas pour le pique-nique de l'église. Et voyez la magnifique température que nous avons. Oui, Dieu est bon lorsqu'il envoie une belle journée ensoleillée. Mais il était également bon lorsqu'il permit que ma sœur Betsy meure de faim devant mes yeux, dans un camp de concentration nazi. Je me souviens d'une fois où j'étais très découragé dans ce camp. Tout autour de nous était sombre et mon cœur était plongé dans les ténèbres. Je me souviens d'avoir dit à Betsy que je pensais que Dieu nous avait oubliés. Non, Corrie, dit Betsy. Il ne nous a pas oubliés. Souviens-toi de sa parole. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et Corrie de conclure ainsi auprès de Dieu, « Il y a un océan d'amour, il y en a amplement pour tous. Que Dieu vous accorde de ne jamais douter de cet amour victorieux, quelles que soient les circonstances. » Et Dieu s'est servi de Betsy pour former sa sœur Corrie de manière à ce qu'elle apprenne à regarder en haut. Si bien que lorsque la guerre a été terminée, Corrie a pu fonder une association qui a acheté les murs d'un ancien camp de concentration dans lequel ont été accueillis tous les meurtris en déportation, qui souvent arrivaient dans ce lieu rongés par la haine et la rancune envers leurs tortionnaires. Et avec toute une équipe, elle a aidé ces victimes rongées par la haine à quitter leur ornière de pensées de haine et de rancune, en leur montrant qu'elles ne pourraient s'en sortir dans la vie et devenir utiles pour d'autres que dans la mesure où les ornières de haine dans leurs pensées, dans leur cœur, étaient remplacées par des ornières d'amour. Et je pense ici à ces appels avec des milliers d'autres femmes, jusqu'à 35 à 40 000 femmes, tenez-vous bien, hein, en même temps, rassemblés le matin à 4h30, été comme hiver, parfois à 3h30 du matin, sous-alimentés après des nuits horribles, 35 à 40 000 femmes rassemblées pour répondre à l'appel de leur nom pendant des heures et des heures, n'est-ce pas? Et elle dit, là aussi, où celle qui s'est occupée d'elle pendant les 5 dernières années de sa vie écrit ceci: les nuits étaient froides et noires. Les prisonnières étaient gardées par des gens qui avaient, selon l'expression de tante Corrie, été formés à la cruauté. Il y avait des moments de profond désespoir. Un sombre matin, alors qu'elle était en rang avec des milliers d'autres femmes tapant des pieds pour se réchauffer, et qu'elle avait le cœur lourd parce qu'il lui semblait que Dieu les avait abandonnées, Betsy et elle, et tout à coup, une alouette se mit à chanter au-dessus de leur tête. Elle leva les yeux et alors lui revint à la mémoire le psaume 103. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Aussitôt elle reprit courage malgré sa condition misérable et sut que Dieu ne l'avait pas délaissée. Et chers amis, ce chant d'alouette était tout un symbole. Parce que vous le savez peut-être, l'alouette ne chante jamais quand elle est dans son nid. Plus elle monte haut, plus elle chante. Et au fur et à mesure qu'elle se rapproche de son nid, son chant diminue d'intensité une fois dans son nid. Vous ne l'entendez plus. Comme une manière de dire pensez en haut. Pensez à ce qui est en haut. Je voudrais prendre un dernier exemple dans le psaume 42. Psaume 42, cantique des fils de Corée. Il s'agit là d'un prêtre, d'un lévite, très exactement, chargé de célébrer la louange dans le temple de Jérusalem. Et qui, semble-t-il, n'est pas à Jérusalem, mais à la frontière nord du pays. Exilé, entouré de gens qui se moquent de lui, qui ne le comprennent pas dans sa piété. Lui aimerait être avec ses compagnons, lévites, dans le sanctuaire, ou en tout cas dans l'enceinte de ce temple. Et écoutez-le, comme une biche, soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et quand je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude. En fait, il se souvient, n'est-ce pas? Ses pensées retournent en arrière vers cette période de sa vie où tout était si beau. Et puis subitement, le ton change, n'est-ce pas? Verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, ou attends Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéar, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées, toutes tes vagues, tous tes flots passent sur moi. Puis reviens en arrière. Le jour, l'Éternel m'a accordé sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, mais pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Vous voyez, cette espèce de vague qui vient et qui part. Quand il pense au passé, son âme s'effondre. Quand il entend ceux qui se moquent de lui, son âme s'effondre. Et puis, à un moment donné, il se ressaisit. Et là, à nouveau, il se ressaisit. Verset 12. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi, au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Et le psaume 43 va dans la même direction. Il semble qu'ils aient été un seul psaume à l'origine. Regardez au verset 2, « Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. Je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut. » Et mon Dieu, vous avez remarqué ce que fait ce Lévite qui déprime, qui de temps en temps regarde en arrière, autour de lui, garde en bas. À un moment donné, il se redresse. Et ce qu'il fait, il discipline ses pensées. Et comment est-ce qu'il discipline ses pensées? Il parle à son âme. Il interpelle son âme. C'est-à-dire qu'il cesse d'accepter que son âme lui parle. La discipline des pensées, c'est cela. Il nous faut, de temps en temps, souvent si nécessaire, interpeller notre âme et lui dire « Maintenant, ça suffit. Ce n'est pas mon âme qui doit me conduire par le bout du nez. C'est moi qui dois conduire mon âme. C'est moi qui dois lui donner des ordres. » Vous connaissez le début du psaume 103. Hein? « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Mais est-ce que nous savons vraiment dire ce texte? Comment faut-il le dire? C'est pas « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est pas ça. C'est « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je m'adresse à toi, mon âme. Je te parle et je te donne un ordre, mon âme. Je te demande, j'exige de toi que tu bénisses l'Éternel et que tu n'oublies aucun de ses bienfaits. J'élève mon âme vers le haut. » Mais bien aimé, si souvent, nous nous laissons attirer en bas par notre âme, c'est pas vrai. On laisse notre âme nous mener par le bout du nez. Ça, c'est notre problème. Et c'est comme cela que nous tombons dans ce travers de l'apitoiement sur soi. Vous connaissez l'apitoiement sur soi? Cette manière de se prendre en pitié quand ça va mal. Cette manière de ne jamais sortir de ses problèmes. Parce que ce sont les autres qui ont tort. C'est la météo qui est mauvaise. Ce sont les nouvelles à la radio qui sont mauvaises. C'est le patron qui est un sale type. Et que sais-je encore, n'est-ce pas? L'apitoiement sur soi. Je suis en train de terminer la rédaction d'un ouvrage en deux volumes, et dans le premier volume, j'écris ceci sur l'apitoiement sur soi. L'apitoiement sur soi est un fléau à la fois terriblement destructeur et particulièrement subtil. Il nous emprisonne, nous étouffe, nous submerge, nous envoûte à la fois. Il agit comme une drogue hallucinogène aux effets désastreux, sensue vorace. Aux innombrables ventouses, il nous absorbe, nous dévore, il déforme nos pensées, tord notre vision de nous-mêmes, des autres et de Dieu. L'apitoiement sur soi n'engendre que des personnes amères, aigries et cyniques. Il nous maintient recroquevillés sur nous, les yeux rivés sur notre très cher moi. Cultivant un nombrilisme aigu, passant une grande partie de notre temps à nous poser en victime innocente, à nous prendre en pitié, à lécher nos plaies, à ressasser des griefs et des injustices, à nous lamenter sur notre sort. Chaque fois que nous nous complaisons dans l'apitoiement sur soi, c'est donc notre vieille nature déchue, tordue par l'égocentrisme, que nous satisfaisons et engraissons. En cédant ainsi à ses caprices orgueilleux, à son avidité gloutonne et insatiable, à ses exigences sans fin, nous la caressons, la chouchoutons et la dorlotons au lieu de la maintenir crucifiée, etc. Regarde en haut. Souvenons-nous ce soir, mes bien-aimés. Regardons en haut. Apprenons à regarder en haut. Pensons à ce qui est en haut. Apprenons à discipliner nos pensées. Alors nous aurions pu aller beaucoup plus loin, mais nous allons nous arrêter là. Penser à ce qui est en haut, c'est nous imprégner de la parole de Dieu. Nous imprégner, être saturé de la parole de Dieu. Il y a des choix à faire, nous en parlerons demain matin. Ne me dites pas que nous n'avons pas le temps. Nous avons le temps pour ce qui nous motive. Mais est-ce qu'il y a des choix à faire? C'est peut-être la télévision qui va en prendre un sacré coup, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous avez déjà vu que la télévision tourne nos regards vers le ciel, vous? Elle est en train de blesser l'Église à mort, la télévision. Oh, Dieu lit dans nos pensées. Vous vous débrouillerez avec Dieu si vous avez quoi que ce soit à dire. Parce que nous avons toujours des excuses. Nous trouvons toujours des excuses. Pense à ce qui est en haut. Nous voulons prier. Seigneur, tu connais nos combats. Merci de nous avoir rappelé celui de Jérémie, ton serviteur. Merci pour son intégrité, son honnêteté devant toi. Mais merci aussi pour son travail sur ses pensées, cette discipline des pensées, cette réorientation de sa pensée. Merci pour ce Lévite qui nous rappelle qu'il nous faut aussi parler à notre âme, ne pas nous laisser mener par nos sentiments, par tout ce que nous percevons, ressentons. Apprends-nous, Seigneur, à exiger de notre âme un changement de regard. Seigneur, visite-nous. Brise toutes les résistances qui sont en nous. Aide-nous à déposer au pied de la croix toutes les excuses que nous formulons. Merci, Seigneur, de nous apprendre à orienter continuellement nos pensées dans la bonne direction. Tu nous donnes la grâce, tu nous donnes la force. Nous avons reçu ton esprit, nous avons ta parole, nous avons l'intercession d'un Seigneur glorifié. Merci pour tous les moyens de grâce que tu mets à notre disposition, pour que nous soyons aussi un peuple de vainqueurs dans ce domaine de la pensée. Seigneur, c'est ainsi que nous voulons aussi t'offrir nos cœurs en t'offrant nos corps. Mets ton sceau sur ce que nous avons partagé. Nous te le demandons de tout notre cœur, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.